les 40 ans de la direction de la protection de la jeunesse. Bon an, mal an, la DPJ prend en charge entre 30 et 35 000 enfants. On parle souvent des cas malheureux, mais il y a des histoires heureuses. Et celle de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, en est une, je pense. Mathieu Lacombe, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Brinville.
D'abord, juste pour que les gens, se mettent un peu dans le contexte, rappelez-nous un peu votre histoire. Combien de familles d'accueil vous avez fait? Comment vous êtes arrivé là?
Ben, je suis effectivement un enfant qui... ou maintenant un homme qui a été un enfant auparavant qui a fréquenté des familles d'accueil. Dans mon cas, ça a été une famille d'accueil, un foyer de groupe, et puis ça s'est finalement terminé dans une famille d'accueil qui était au sein de ma propre famille, donc un oncle, une tante, qui m'ont accueilli chez eux et qui était reconnue comme famille d'accueil par la Direction de la protection de la jeunesse.
Comment vous réagissez quand vous entendez toutes ces histoires qui sont en général assez malheureuses liées à la DPJ et qui ont donné mauvaise presse à la DPJ?
Ben, je comprends. La première chose, c'est que je comprends parce que pour être passé dans ce processus-là, c'est pas un processus qui est facile. On doit souvent comparaître devant le tribunal. On est des enfants et on voit tout ça. Pour nous, c'est impressionnant. On comprend pas toujours ce qui se passe. Il y a des parents aussi qui sont impliqués dans tout ça. C'est très émotif. Donc, quand je vois des cas d'horreur pratiquement où ça éclate, où la chicane est dans tout ça, je comprends, parce que c'est tellement émotif que souvent, ça dérape. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cas où ça fonctionne bien, où c'est la bonne solution, où les parents reconnaissent aussi que c'est la bonne solution, peut-être temporairement. Dans mon cas, ça a été ça. Puis ça finit bien dans ces cas-là.
Est-ce que vous avez été marqué?
Ben, je pense que oui. C'est difficile à dire parce qu'on peut pas nécessairement se psychanalyser soi-même puis comprendre nécessairement comment ça a eu un impact sur notre vie. Mais moi, je pense que oui, ça m'a marqué dans le sens où ça fait partie de qui je suis maintenant. Ça marque quelqu'un, je suis persuadé, parce que ça développe peut-être certains réflexes. J'ai appris plutôt jeune à me débrouiller, je dirais pas complètement par moi-même, mais avoir des réflexes, disons... d'être un petit peu plus persévérant ou de m'arranger un peu quand même plus par moi-même que d'autres enfants du même âge. Je pense que ça me suit encore aujourd'hui, mais je pense que ça fait partie intégrante de qui je suis, puis ça a contribué à mes succès, peut-être à certains échecs aussi, mais ça fait partie de qui je suis maintenant.
Ouais, en fait, ma question n'était pas assez précise. Je vous ai demandé est-ce que ça vous a marqué. Dans le fond, ma question, c'était est-ce que ça vous a meurtri?
Meurtri, je ne dirais pas. C'est certain qu'avec leur recul, moi, je souhaite à tous les enfants du Québec de pouvoir grandir avec leurs deux parents dans une famille où règne l'harmonie et où il n'y a aucun problème. Mais dans les faits, c'est pas ce qui arrive. Dans mon cas, c'est certain que j'aurais souhaité avoir ce scénario-là aussi. C'est pas ce qui est arrivé pour des raisons qui sont les miennes dans ce cas-ci. Bon, je suis pas un enfant qui a été maltraité par son père ou par sa mère, mais pour des raisons de santé, pour des raisons de conflits familiaux, il arrive des moments où on doit avoir recours à la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, dans mon cas, je dirais pas que j'en ressors meurtri, parce que je pense vraiment que c'était la bonne chose à faire, puis j'ai vécu des expériences qui ont été heureuses à ce moment-là quand même.
Qu'est-ce qui est le plus dur?
Ben, le plus dur, c'est une bonne question, c'est peut-être difficile à répondre parce que quand on est enfant, c'est difficile.
Vous aviez quel âge quand vous avez été placé à la DPJ?
De mémoire, je dirais 6 ans à peu près. La première fois, j'étais assez jeune. Je dirais que c'était avant 10 ans. Le deuxième épisode, bon, ça a été, je dirais peut-être vers 11 ans, 12 ans. Et puis, par la suite, vers 13 ou 14 ans. Donc, ça fait partie vraiment de toute ma jeunesse. Je voudrais ce qui est peut-être le plus dur, parce que quand on est enfant, on réalise pas nécessairement l'impact que ça a sur nous. C'est certain que dans l'immédiat, on aimerait être avec nos parents et puis être comme les autres familles qu'on voit autour de nous. Puis, je dirais que plusieurs années plus tard, dans mon cas, c'est peut-être aussi de faire le deuil, entre guillemets, de cette enfance-là qui a pas été comme toutes les autres ou comme celle de la majorité des enfants.
Donc, le deuil de la normalité, d'une certaine façon?
Ben, on peut dire ça, le deuil de la normalité. Mais en même temps, je m'apitoie pas là-dessus. Puis, c'est du passé. Comme je dis, ça fait partie de qui je suis maintenant. Ça a contribué à construire ma personnalité puis à construire mon parcours. Mais quand on regarde ça objectivement, c'est certain que je me dis, j'aurais aimé aussi avoir l'occasion de vivre avec mes deux parents dans un cadre familial plus normal, effectivement.
Diriez-vous, en terminant, que vous êtes d'une certaine façon une figure d'espoir, puis peut-être même une figure inspirante pour les enfants, peut-être dont certains vous écoutent, là, qui se disent, ben je suis à la DPJ ou je suis passé par là, puis je regarde ce gars-là, puis il a l'air solide, il a traversé les épreuves, aujourd'hui il est ministre. Est-ce que vous vous voyez comme ça?
Ben, je ne sais pas si j'en suis une, mais je souhaite en tout cas que mon histoire puisse inspirer peut-être des jeunes, effectivement, de la DPJ, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Puis je pense que quand on décide de se prendre en main et on est bien accompagné, je pense que la DPJ peut bien le faire, on peut s'en sortir, puis non seulement s'en sortir et survivre, là, en guillemets, mais tirer notre épingle du jeu, puis faire ce qu'on aime, ce qu'on veut dans la vie, relever des défis. J'espère que les jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans un centre d'accueil ou une famille d'accueil, vont se dire que c'est possible. Moi, je les encourage.
Alors, j'ai quelqu'un qui m'écrit pendant que vous me parlez, monsieur le ministre Lacombe, qui me dit « C'est si rare d'entendre un témoignage d'adulte qui est passé par la DPJ. Bravo à Mathieu Lacombe de témoigner ainsi. » Voilà.
Si on peut les inspirer, c'est tant mieux. Je vais être bien heureux. Parce que, vous savez, moi, je voulais plus en parler. Puis là, bon, aujourd'hui, l'occasion s'est présentée, puis je me suis dit « Je vais le faire. » Ça me fait plaisir parce que effectivement, je pense que ça peut inspirer des jeunes. En même temps, je pense pas qu'il faut s'apitoyer non plus sur notre sort. Il faut dire quand on en sort, faut en sortir plus fort avec les bons outils, puis poursuivre notre parcours par la suite.
Ben, continuez, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Bonne chance pour la suite des choses.
Merci, M. Brainville.
À la prochaine. Et là, on va aller rejoindre un juge à la retraite. Il enseigne à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, mais il a siégé pendant 15 ans à la Chambre de la jeunesse. Lui, il a vu l'évolution de la DPJ. Monsieur le juge Jacques R. Roy, bonjour.
Bonjour, M. Vinville.
Pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont un préjugé défavorable par rapport à la DPJ, parce qu'elle évoque dans leur tête des histoires malheureuses, des histoires d'enfants qui sont trimballés d'une famille à l'autre, d'occasions manquées, d'enfants mal protégés, de signalements qui n'ont pas donné de suite. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que la situation a évolué puis elle a changé positivement. Parce que quand vous parlez précisément d'enfants trimballés d'un endroit à l'autre, même votre collègue Arcan a contribué à un film qui parlait précisément des enfants Teflon, des enfants qui étaient trimballés, comme on dit, d'une famille d'accueil à une autre, puis qui ne voulaient pas s'attacher à cette nouvelle famille parce qu'ils avaient la crainte d'être rejetés, de devoir aller ailleurs. C'est ce qu'on appelait les enfants Teflon. Alors, on a pris conscience de cette situation malencontreuse, puis là, on a fait des réformes d'importance, notamment celle de 2006, où est-ce qu'on a dit qu'il faut absolument faire un plan de vie pour les enfants. On ne peut pas les trimballer, les changer de famille d'accueil. Alors, en 2006, ça a été un virage extrêmement important pour améliorer la situation. Évidemment que l'idéal, c'est comme monsieur, votre invité le disait, c'est d'être avec ses parents biologiques. Hein? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Puis également, cette loi-là, dont on fête le 40e anniversaire, était bien consciente que c'est quelque chose d'extrêmement pénible de s'immiscer dans une famille pour en retirer, si besoin est, un enfant. Alors, il faut donc y aller avec beaucoup de minutie, puis également avec beaucoup de respect et pour des raisons extrêmement graves. Parce que cette loi-là, justement, c'est une loi exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens que c'est pour des raisons exceptionnelles jusqu'à un certain point qu'on permet à l'État de s'immiscer dans l'intimité d'une famille.
Comment vous faisiez?
Pour des raisons bien précises qui sont listées dans un article de la loi.
Comment vous faisiez comme juge pour décider à un moment donné, cet enfant-là doit rester avec sa famille biologique ou retourner dans sa famille biologique ou au contraire, je dois le laisser avec la famille d'adoption. Comment vous, est-ce qu'il y avait une part de, je dirais, de, d'intuitif, d'instinctif à un moment donné? Est-ce que, qu'est-ce qui vous guidait? Parce que c'est incroyable la décision que vous preniez. Vous saviez que ça risquait d'avoir un impact incroyable sur la vie. C'était peut-être la décision la plus importante de la vie de l'enfant.
Oui, ah, puis il faut y aller avec beaucoup, encore une fois, de respect, de en prenant le temps. Puis c'est pour ça que c'est tellement important, M. Drainville, comme le barreau américain le disait à plusieurs années, un juge qui siège en matière de famille, en matière notamment de jeunesse, devrait avoir des connaissances dans les sciences humaines, que ce soit au point de vue psychologie, sur le développement d'un enfant, en disant que depuis les premiers jours, c'est important ce qui se passe dans son cerveau. Alors, il faut donc avoir recours à des spécialistes également, parce que le tribunal de la jeunesse, la chambre de la jeunesse, c'est le tribunal où il y a le plus d'experts qui viennent, après avoir vu l'enfant, parler de son développement, parce qu'on doit prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, il faut donc savoir, dans cet enfant concret qui est devant le tribunal, c'est quoi ce qu'il a vécu, c'est quoi son profil, puis c'est quoi également ce qu'on doit faire pour lui ou pour elle.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rendre une décision qui était contraire à votre intuition? La loi vous obligeait à faire quelque chose, mais vous vous disiez, non, l'intérêt de l'enfant, là, ça devrait être autre chose.
Moi, j'espère que non. Hein? Puis je me dis également que si je fais erreur, comme c'est possible que j'en ai fait des erreurs, il y a quand même une possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui corrige, parce qu'il y a quand même des cours d'appel. Mais également, en jeunesse, l'enfant revient devant le même juge. Donc, on peut voir son évolution, puis on peut peut-être essayer de corriger une situation ou une décision qui a été malencontreuse. Hein?
Parce que, ça vous est arrivé, monsieur le juge? Monsieur le juge, ça vous est arrivé, mettons, de dire, je les laisse dans la famille biologique, je le laisse dans la famille biologique, c'est ma première décision, il revient devant moi, je me rends compte que c'était pas la bonne décision, et finalement, je le sors de là?
Oui, en fait, dans une décision dont je suis fort content, parce qu'il s'agissait d'un enfant qui, à sa naissance même, a dû être placé dans une famille d'accueil. Hein? Puis finalement, ce même enfant-là revenait devant moi. Puis là, la loi disait qu'il fallait absolument, encore maintenant, retourner l'enfant avec ses parents biologiques. Alors, je le retournais dans sa famille biologique. Puis l'enfant, à ce moment-là, avait des comportements. Par exemple, quand il allait dans sa famille biologique pour des visites, il revenait à la maison tout bouleversé, il ne dormait pas, il faisait dans ses culottes, il cachait son linge également, son propre petit linge, quand il savait qu'on allait l'amener dans sa famille biologique. Puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que la décision que je faisais de tenter de retourner dans sa famille biologique était malencontreuse. Puis, bref, c'est venu devant moi, il y avait deux psychiatres. Un qui disait, c'est essentiel de le retourner dans sa famille biologique parce qu'il va toujours chercher ses liens. Puis un autre disait, non, sa famille à lui, cet enfant-là, c'est la famille psychologique, la famille qui s'occupe de l'enfant en se penchant sur son berceau la nuit quand il pleure, le matin. Finalement, l'enfant se dit, il doit être important. C'est toujours la même figure qui est au-dessus de mon berceau ou dans la cuisine. Alors là, à ce moment-là, j'ai décidé de placer l'enfant en permanence dans la famille psychologique. C'est des choses qui ne se faisaient pas à cette époque-là. C'était avant la loi de 2006 qui dit qu'on doit faire un plan de vie pour les enfants.
Une dernière chose. Je vous lis dans le papier d'Anne-Marie Lecomte à propos des nouveaux arrivants. Parce que la question se pose, ils arrivent avec une autre culture, d'autres valeurs, familiales notamment. Et vous dites, on ne doit pas dire, compte tenu de ce milieu, compte tenu de cette culture-là, c'est acceptable d'avoir des comportements allant jusqu'au crime d'honneur. Les raisonnements tels que ça s'est toujours fait comme ça dans notre pays, c'est non.
Exactement, exactement, tout à fait. Tu sais, le Québec, Montréal notamment, s'enrichit de l'arrivée de nouvelles familles venant des quatre coins du monde. C'est bon, c'est excellent. Mais cependant, on ne peut pas faire ce qu'on peut appeler d'une façon spéciale du relativisme culturel. Relativisme culturel en disant que compte tenu de la culture de cette personne-là, de cette famille-là, on doit accepter certains comportements comme la correction physique. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Au Québec, on ne bat pas les enfants. Ça prend plus de temps de leur expliquer, d'y aller avec la parole, mais c'est plus productif. Alors, donc, au point de vue des cultures nouvelles du Québec, c'est un enrichissement. Non, on ne peut pas accepter un relativisme culturel. Qu'on soit ici depuis 300 ans, comme vous, probablement, ou comme votre famille, ou comme moi, ou qu'on soit ici depuis 3 mois seulement au Québec, le comportement, la loi est la même. On ne bat pas les enfants. On n'utilise pas les corrections physiques.
Très bien. Jacques R. Roy, juge à la retraite qui enseigne à la Faculté de droit à l'Université de Montréal, qui a siégé pendant 15 ans à la Chambre de la jeunesse. Merci pour votre témoignage, monsieur le juge.
Je vous en prie. Bonne fin de journée.
Vous aussi. Au revoir. Dans un instant, la reconnaissance faciale, ce qui se passe avec Facebook, ça soulève ce débat-là. Et là, restez à l'écoute. Parce que vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec la reconnaissance faciale. Là. Et puis, je vous le dis, là, j'en ai encore les poils qui me dressent sur les bras.